BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois Fabrice Brigier, qui est aujourd'hui président du conseil d'administration du réassureur, le sixième réassureur mondial, SCOR. Bonsoir Fabrice Brigier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi du RS, on en dira un mot forcément, président de Palantir Technologies pour la France. On sait que Palantir, c'est un groupe américain qui est spécialisé dans le big data, l'exploitation des données. Très important pour beaucoup, très important aussi pour SCOR. Vous nous direz pourquoi vous avez signé. Est-ce qu'il n'y a pas un petit conflit d'intérêts quand même? Vous êtes l'ancien patron d'Airbus. Vous avez été, je crois, plus de 10 ans chez Airbus, 12 ans. Vous avez été 6 ans le CEO d'Airbus. C'est comme ça qu'on vous recevait ici souvent sur BFM Business. Vous avez dû entendre Mathieu Pechberti qui dit que le dossier Airbus-Atos est un peu victime de rivalités internes entre le président allemand qui dit non, je ne veux surtout pas d'Atos, c'est la cybersécurité des big data, et puis Guillaume Faury, un peu poussé par Bercy, qui serait plutôt favorable. Vous, vous avez connu ça lorsque vous étiez à la tête d'Airbus. Votre président s'appelait Thomas Enders et vous avez eu quelques différents, on peut dire ça comme ça.
Finalement, assez peu, ouais. Sur le plan stratégique, ouais. Puisque moi, je m'occupais de l'activité avions commerciaux, et on a fait une très belle opération en récupérant la famille des avions bombardiers, qui s'appelle l'Airbus 220, et on était d'accord sur ce
ouais.
point.
Oui, sur la cybersécurité, c'est un enjeu très important. Vous connaissez ce domaine par cœur, Fabrice Brégier. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à Airbus?
Airbus, dans l'activité de défense, a une activité de cybersécurité. Et donc, c'est assez logique qu'il regarde. Mmh. Ensuite, les négociations, visiblement, achoppent dans le cadre de ce qu'on appelle la due diligence. Ça, c'est la vie des affaires. Et pour faire des acquisitions de cette nature, eh bien, il faut que la direction générale et le conseil d'administration soient alignés.
Oui. Sur quoi peut porter le désaccord? Même si vous connaissez
peut-être
pas,
sur le niveau de risque, sur le niveau de prix. Moi, ce que je sais, c'est ouais. qu'Atos a une bonne réputation dans le domaine de la cyber, ce qui n'est pas forcément le cas de tous ses métiers, et qu'il est extrêmement important de trouver une solution nationale ou au moins européenne pour accueillir l'activité cyber qui est véritablement le cœur stratégique hein, du big data.
Oui, c'est clair, évidemment. Je disais, vous êtes à la fois patron de SCOR, enfin le directeur général, l'exécutif, c'est Thierry Léger, hein, bien sûr. Vous êtes aussi patron de Palantir pour la France et vous le restez. Alors, et puis là-dessus, il y a un accord qui est signé. SCOR a choisi Palantir pour gérer ses datas et c'est l'exploitation de ses données. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit conflit d'intérêts, comme je le disais?
Je ne vais pas commencer la présidence de SCOR qui s'est déroulée en avance de phase, hein, vous le savez. C'est pourquoi j'ai les deux casquettes, hein, qui sont tout à fait compatibles, puisque la présidence de SCOR est non exécutive. Hein, comme vous l'avez rappelé, il y a un directeur général qui est là pour travailler 24 heures sur 24, avec un conflit d'intérêts, vous imaginez bien. Ce choix est un choix des équipes de management, et moi, je me suis écarté des discussions et des négociations, évidemment.
Mais il y en a peut-être d'autres qui font ça dans du big data et de l'exploitation
mais bien
des
sûr.
Données, même
mais,
si la réputation
sûr.
De Palantir est très bonne.
La direction générale de SCOR a choisi Palantir au terme d'un processus compétitif, évidemment. Hein. Ouais. Ce que je peux dire, c'est que ce choix a été fait lorsque je n'étais pas président, je n'étais que modeste administrateur au conseil d'administration, sans aucune influence sur la direction générale, et qu'ensuite, le nouveau directeur général, venant de Swiss Re, un grand réassureur mondial, a confirmé ce choix. Pourquoi ? Parce que Swiss Re a un grand partenariat avec Palantir depuis de nombreuses années. Donc, d'accord. Il a regardé le deal, les conditions, et l'a approuvé. Donc, c'est véritablement une décision de la direction générale. Moi, je peux seulement vous dire que je me réjouis que les équipes de management aient choisi ce
qui
m'apparaît comme la meilleure solution au monde pour le big data et l'intelligence artificielle.
Ouais. Et on verra dans un instant, après on va quand même parler du SCOR, en quoi l'intelligence artificielle, pour un réassureur, c'est vraiment au cœur, ça devient stratégique pour beaucoup d'entreprises, mais particulièrement dans votre activité. Vous étiez administrateur de SCOR à partir du 2 février 2019. Ouais. Et en fait, vous êtes devenu le PDG, président du conseil d'administration, le 25 juin 2023, après le décès de Denis Kessler, ouais. Le 9 juin dernier. Lorsque vous regardez le marché de la réassurance et qu'on garde Score. Vous avez publié vos résultats maintenant, c'était la semaine dernière. Très bon résultat. L'année 2022 avait été difficile. 2023 se présente très bien, enfin année record, et 2024 se présente bien aussi. Pourtant, on a l'impression qu'il y a des aléas climatiques qui sont de plus en plus forts, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des tsunamis, qu'il y a des pluies diluviennes, qu'il y a des guerres un peu en Ukraine, dans le Moyen-Orient. Et vous nous dites maintenant 2024 se présente bien. Comment vous expliquez tout ça ?
Vous avez raison. Ça, c'est en fait pas contradictoire du tout. Pourquoi ? D'abord, le marché de Score, c'est effectivement assurer des risques. Et comme vous l'avez dit, des risques qui sont parfois extrêmes. Les risques climatiques, les catastrophes naturelles en sont. Mmh. Dans ces conditions, s'il n'y avait pas cette augmentation des risques, Score ne pourrait pas croître. Donc la tendance du marché, c'est un marché en croissance pour assurer davantage de risques. On parlait de cybersécurité. Est-ce que vous savez que pour l'instant, seulement 10% du risque est assuré
en cyber.
Donc le potentiel est énorme. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu d'énormes années difficiles avec le Covid, avec les catastrophes naturelles, avec des taux d'intérêt qui permettaient l'argent facile. Tout ça est derrière nous et on est dans un cycle porteur sur le marché. Et c'est pour ça que Score a, avec ses collègues et ses compétiteurs, de bonnes performances en 2023, que ça va sans doute se poursuivre au moins sur 2 ans. Et d'autre part, nous avons restructuré l'équipe de management avec un nouveau directeur général qui a 30 ans d'expérience dans nos métiers et nous réduisons nos risques en finalement les diversifiant au maximum.
Oui, vous avez. On reviendra sur le management parce que évidemment, en plus, il y avait des pratiques sociales un peu particulières, on va dire, chez Score, et vous y avez mis un terme, ou du moins à Thierry Léger. Donc, il y avait une perte historique en 2022, 300 millions. Là, un record, un bénéfice record, 812 millions. Vous nous dites, c'est parce que tout ce qui s'est passé là, en 2023, c'est bon pour le réassureur. Moi, j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup d'assureurs qui disaient on ne peut plus assurer les risques climatiques, on ne peut plus assurer les collectivités locales, on ne peut plus assurer celui qui s'est fait inonder sa maison 2-3 fois ou qui a des fissures. Donc c'est là où c'est un petit peu, enfin on a du mal à saisir. Faut détailler, comme on dit Fabrice Brugier.
Mais absolument, notre métier de réassureur, c'est finalement de prendre une partie du risque porté par les compagnies d'assurance, généralement. Et on peut le prendre soit en prenant une partie de leur contrat, soit en prenant une tranche de risque particulière. Par exemple, il y a un tremblement de terre. Ben, on va assurer jusqu'à une certaine limite ou au-delà d'une limite. Et qu'est-ce que l'on sait faire ? Justement, en étant soutenu par l'exploitation des données, on sait finalement mutualiser ce risque, le répartir du point de vue géographique et avoir une couverture que des compagnies d'assurance plus locales ne peuvent pas apporter. Mmh. C'est ça qu'on apporte au marché. Bien évidemment, si on ne maîtrise pas ce risque, et c'est pour ça que notre raison d'être, c'est combiner l'art et la science du risque, si on n'est pas capable de le faire, on n'est pas un bon réassureur. Et Score a des équipes formidables pour ça, qu'il fallait réaligner, remotiver et faire en sorte qu'elles donnent le maximum. C'est ce qui est en train d'être fait.
Qu'est-ce qui vous a coûté le plus cher en 2023 ?
Alors, le Covid a encore beaucoup pesé, hein, puisqu'il y a un temps de latence.
Combien ?
Je pense que l'ordre de grandeur du milliard, en plus ou en moins, est un bon ordre de grandeur pour un assureur comme Score. Mmh. Vous voyez, donc c'est vraiment extrêmement sérieux. Et beaucoup de catastrophes naturelles.
Oui, bien sûr.
Aussi des risques sur la responsabilité civile aux États-Unis qui a dérivé, avec beaucoup de procès qui peuvent coûter très cher aux assureurs et donc aux réassureurs. Donc il s'agit de maîtriser ces risques, de les plafonner, de les diversifier, mais on a un vrai rôle sociétal, Edwige, puisque sans nous, sans les compagnies d'assurance,
C'est clair, oui.
Il n'y a pas d'économie.
Oui.
En revanche, si vous avez des
assurances, je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on voit des assureurs qui nous disent, écoutez, là, ça coûte trop cher, même au niveau de la fédération, qui disent,
ils ont raison.
Là, ça coûte trop cher, on se retire. Non, c'est pas leur.
Je vais donner un exemple qui n'est pas français.
Oui.
Catastrophe naturelle en Floride. Maintenant, c'est très dur, même avec des hausses de prix substantielles, de les assurer, parce qu'il y a trop d'événements.
C'est anormal, non ?
Ce n'est pas anormal, il faut que le marché se régule en fonction du niveau de risque.
Il faut un assureur public.
Il y a des domaines, le terrorisme, l'état de guerre, où les États doivent intervenir.
Oui.
Je pense même que pendant le Covid, entre nous, on ne peut pas, nous, assurer le produit intérieur brut si un État décide de bloquer l'économie pour des raisons sanitaires. Hein. Mais ce sont des cas extrêmes. Je pense que la réassurance et les assureurs ont le devoir d'assurer de plus en plus, même si les primes dans certains domaines peuvent augmenter.
Qu'est-ce qui va devenir pour vous, là, vous nous avez expliqué, par exemple, le Covid, les aléas climatiques. Est-ce que, dans les prochaines années, je ne sais pas à quelle échéance, vous nous le dire, le risque cyber va devenir un des principaux risques?
C'est déjà un des risques principaux. Et pourquoi il est mal assuré?
Vous dites que c'était que 10% assuré.
Voilà. Pourquoi? Parce que ce risque peut être endémique.
Ah oui, bah oui.
Il peut toucher le monde entier. Donc là, aucune compagnie d'assurance, aucun réassureur ne peut garantir ce risque. Et ce risque est très évolutif. Donc, il faut que tout ça se mette en place. Et sur plusieurs années, je pense qu'on pourra avoir des couvertures.
Qu'est-ce qu'il faudrait, voilà, mettre en place pour le risque cyber?
Il faut, je pense, avoir des partenaires. On parlait d'Atos, mais pour les PME, pour les entités publiques, qui permettent d'avoir un minimum de garantie, de protection contre le risque cyber. C'est pas du tout le cas pour l'instant.
Ah non, pas
donc
du
ça,
tout,
c'est
ouais.
le premier point.
Ouais.
Et ensuite, eh bien, il faut peut-être avoir un dialogue avec les pouvoirs publics pour voir quel niveau de risque peut être assuré par le monde de l'entreprise et ce qui est peu et qui doit, dans le cas d'une pandémie de ce risque, hein, d'une endémie, qui doit être couvert par les pouvoirs publics, par exemple.
On sait qu'il y a eu des manœuvres en tout genre, des tentatives de déstabilisation dans la réassurance, avec Thierry Durrès de Covéa qui voulait prendre le contrôle de Score. Finalement, il a pris le contrôle de Partneret, et là, c'est des gens, Adrien Couret, pour ne pas le citer, d'AMA, qui a essayé de déstabiliser ce deal, etc. La question est simple, c'est est-ce qu'un réassureur, aujourd'hui, peut rester indépendant?
Je pense que c'est l'ADN de Score. Score
non, mais okay,
a été indépendant.
L'ADN. Pardonnez-moi.
Oui, mais on est en croissance. On a 18% de retour sur nos capitaux propres. On a
mais
des perspectives
terme, alors,
de croissance de 9% par an.
Oui.
Donc je pense qu'on a les moyens de rester indépendant. Ça ne veut pas dire qu'on n'envisage pas, le cas échéant, de regarder ce qui se passe sur le marché. Mais notre plan A, et c'est le seul, c'est une croissance profitable, hein, dans notre plan stratégique à 3 ans, jusqu'à fin 2026, endogène.
Oui.
On a cette capacité, on a toutes les ressources en interne pour maîtriser notre métier.
C'est ça, mais peut-être à terme, on peut dire que le métier de réassureur indépendant va peut-être sera plus compliqué, enfin ça sera moins logique plutôt.
C'est un métier, je vous le confirme, oui. extrêmement compliqué, oui. hein, que oui. je découvre au fur et à mesure. Vous l'avez dit, on est sixième mondial, mais du point de vue des marques, de l'image de marque de Score, on fait partie des 4 ou 5 meilleurs.
Oui. Je disais des stabilisations en série dans la réassurance, avec notamment, on a compris que c'est une affaire qui met en cause plusieurs grands patrons, notamment Adrien Couret, le patron d'AMA, avec pour bloquer un deal cette fois-ci, que Covéa, qui voulait racheter Score, en fait rachète aux Agnelli Partneret. Il y a des mises en examen, Libération a révélé tout ça, c'était un feuilleton absolument incroyable. On a l'impression que l'assurance est un métier sérieux, absolument pas. Bref, Adrien Couret, il est le président du comité administrateur chez vous, il est président du comité des risques. Est-ce qu'il peut le rester malgré sa mise en examen?
Alors, d'abord, moi j'ai appris dans la presse ce que vous racontez, puisque Score ne fait pas partie prenante, n'est pas partie prenante
non,
à
non,
la
pour procédure. Une fois, c'était l'épisode d'avant, c'était voilà. le feuilleton d'avant.
Adrien est un des piliers du conseil d'administration.
Oui, bien sûr, qu'on connaît bien ici en plus.
Nous avons étudié la situation au niveau du comité de nomination et de gouvernance. Adrien n'est pas mis en examen au titre de cette fonction chez Score. Je ne veux pas faire le parallèle avec le gouvernement, mais certains mis en examen ont été nommés ministres. Hein, donc quand on est mis en examen, on est réputé innocent. C'est ce que l'on pense d'Adrien Couret.
Ouais. Un mot avant de parler d'IA, même s'il nous reste peu de temps. Il y avait visiblement, là, c'est nos confrères les Échos qui nous a dévoilé ça, des pratiques sociales un peu du passé chez Score, où Denis Kessler avait mis en place un système de partnership où certains avaient le droit d'aller manger au sixième étage dans le restaurant le plus chic, l'autre c'était au sous-sol. Il y avait des actions nominatives, d'autres ne l'étaient pas. Enfin bon, bref, c'est incroyable, non? On avait découvert ça. ça ?
Le principe est bon, puisque la ressource de SCOR, c'est les hommes et les femmes, c'est pas les usines, hein, c'est pas la technologie. Motiver les cadres les plus méritants, c'est une bonne chose. Mmh. Ensuite, vous avez complètement raison, ce partnership était devenu un petit peu un entre-soi. Et ouais. Thierry Léger, avec mon soutien, a souhaité le remettre à plat. Ça a été fait, ça a été présenté. Il est remplacé par quelque chose, hein, bien évidemment, hein, qui est mis en place par la direction et qui a été fait avec le soutien unanime des syndicats et aussi du conseil d'administration.
Et vous avez pris les mêmes, ceux qui appartenaient à cette caste, entre guillemets ?
Pas tous,
non,
bien
pas
sûr.
Tous, non.
Mais c'est pas parce qu'ils faisaient partie du partenariat qu'ils étaient mauvais. Hein. Ouais. La grande majorité était bon. Et puis, il faut... Vous savez, dans les réorganisations, tous les 5 ans, il faut changer.
Et là, vous avez donné un coup de balai. Enfin, Thierry Léger, il a donné un petit coup de balai dans le top management, non, de SCOR.
Thierry Léger souhaite une entreprise plus agile et qui parle plus des clients.
Donc, il a viré...
Voilà, notre but, c'est de parler des clients et de maîtriser nos risques.
Oui, donc il a simplifié la structure de management.
Il l'a simplifié... avec des prises de décision qui seront faites au niveau régional, mais dans un cadre complètement contrôlé et structuré au niveau du groupe.
Un mot, parce que c'est quand même quelque chose, alors c'est peut-être le Landerneau parisien, mais enfin quand même qui concerne le monde de l'édition, parce que celle qui est dirigée était un peu une star de l'édition, Muriel Meyer. Mmh. La vente du Mans 6, c'est un groupe d'édition qui a été avec Puf, que sais-je, qui avait racheté Denis Kessler, et avec évidemment les éditions de l'Observatoire. C'est à vendre, vous en êtes où dans le processus ? Est-ce que vous avez de nombreuses marques d'intérêt ou pas, et combien ?
On est très fiers du Mans 6.
Oui, enfin, vous
je crois que c'est la 9e maison d'édition.
Oui.
Elle a gagné le prix Interallié l'année dernière. Hein. C'est une très belle marque. Cela étant, on est 9e, 10e, je crois, hein, parmi les éditeurs français. On n'a pas la taille critique. Ça n'est pas le cœur de métier de SCOR.
Non, ça,
donc il faut ancrer cette entreprise auprès d'un des grands acteurs. Et l'ensemble des grands acteurs du monde de l'édition ont montré leur intérêt.
Ils ont tous répondu.
Ils ont tous répondu.
Oui.
Donc, la consultation est en cours.
Oui, mais ça sera la réponse, ça sera pour quand ?
Je pense qu'à l'été, on y verra plus clair.
À l'été, oui.
Pour une prise de décision.
C'est long.
C'est assez rapide, non.
Oui. Et le prix, c'est 20 millions, mais pourtant, ça perd pas mal d'argent, non ?
Le prix, on regardera en fonction du prix et du projet industriel.
Oui, mais le prix pour l'instant proposé, c'est 20 millions ?
Pour l'instant, on n'en est pas là, on n'a pas encore reçu les offres.
D'accord.
On a reçu des sollicitations pour déposer
toutes les maisons. Merci beaucoup Fabrice Brégier. C'est vrai,
merci.
Beaucoup de questions autour de SCOR, mais en tous les cas, SCOR qui entame 2024 sous de bons auspices. Merci beaucoup.